Si Job pouvait dire qui de lui-même peut s'approcher de toi,
Donc,
tu nous as fait la grâce de nous approcher avec assurance. Ce soir encore de ton trône. Nous t'avons dit de cette manière notre soif de t'écouter encore ce soir. Dans nos âmes, soupir après toi. Nous savons que tu as quoi cet homme qui nous vient de loin de ta part. Comme un oiseau de l'Orient que tu as appelé pour attendre cet océan. C'est en ton nom que nous voulons le recevoir. Il a écrit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'il en soit ainsi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons pour la parole de Dieu.
Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas toi qui as dit là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom? Tu as dit je suis. Saluons le mystère de ta présence ce soir en ces lieux. Mystère que nous saisissons par la foi. Parce que ce que tu l'as dit, Seigneur. Ce soir, nous sommes là pour pouvoir encore être édifiés. Seigneur, voici ce peuple pour lequel Jésus a donné sa
vie.
Des hommes et des femmes qui comptent à tes yeux. Alors Seigneur, ce soir, je te demande comme une grâce de me rendre utile,
d'être
une source d'édification, d'encouragement. Seigneur, parle encore à l'Église ce soir. Que je sois qu'un instrument entre tes mains. Et réponds aux attentes du cœur de ton
peuple.
Oh Dieu, combien encore nous pouvons te le dire ce soir. Nous avons besoin de toi. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de
Dieu.
La vie se trouve auprès de toi. Et nous le croyons de tout notre cœur. Il est écrit, venez et écoutez. Et votre âme vivra. Donne-nous la vie encore ce soir. Et nous connaître tes voies et tes desseins. Déchire le voile de l'ignorance. Et fais-nous connaître la vérité. Cette vérité qui a franchi et qui libère. Oui, Seigneur, nous voulons la recevoir ce soir. Avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie encore, Père, afin que personne ne soit en ces lieux, ne soit privé de la grâce de Dieu. Ce que tu as réservé pour cette journée, donne-le pleinement par ton esprit. Parle au cœur de quelqu'un. Révèle-toi à quelqu'un ce soir. Relève la vie de quelqu'un ce soir. Afin qu'en quittant ces lieux, qu'elle ne soit plus la même personne. Toi seul as le pouvoir de changer le cœur humain, de changer l'eau en vin. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher encore de changer dans nos vies? Toi qui donnes une forme à ce qui est informe, toi qui crée la vie dans le néant, alors donne gloire au nom de Jésus-Christ qui est invoqué en ces lieux. Maintenant, cher Saint-Esprit, enseigne ton peuple au nom de Jésus-Christ, celui qui était, celui qui est parmi nous ce soir, celui qui vit éternellement, celui qui revient bientôt. Sois à l'honneur notre Père et reçois donc cette offrande d'acclamation. De t'asseoir et saluer ton voisin et lui dire ce soir encore tu es au bon endroit. Dis-lui que le Seigneur a une parole pour toi ce soir et dis-lui ne sois pas privé de la grâce de Dieu parce que c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Nous continuons et nous allons avancer encore ce soir dans notre sujet combien important. Je vous l'ai dit hier effectivement il était important pour moi de planter le décor, de poser les fondements de ce que nous allons voir de telle sorte que vous puissiez comprendre là où nous sommes en train de partir. Donc c'est très important cela. au-delà du voile déchiré, il y a eu un événement. Et cet événement, c'est qu'un jour, le voile a été déchiré. Et je vous avais dit qu'il était important de comprendre pourquoi ce voile a été déchiré. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière ce voile? Et j'ai dit qu'il y a eu un jour, il y a eu un événement. Et ce voile qui a été déchiré s'est produit un jour. Et le passant prophétique doit comprendre la valeur de cette journée. Non seulement ce voile a été déchiré un jour, mais également il a été déchiré à une heure bien précise. À n'importe quelle heure. Et l'heure à laquelle ce voile a été déchiré a une valeur prophétique. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce soir. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, chapitre 30. Qui nous parle de ce jour-là et qui a trouvé tout son accomplissement avec notre Seigneur, la postérité de la femme qu'on a vue hier. Alors la Bible déclare, Exode chapitre 30, verset 9 à 10. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Ni holocauste, ni offrande. Et vous n'y répondrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année. Parmi vos descendants, ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Il y avait un jour qui avait été fixé par Dieu. Une fois dans l'année, le souverain sacrificateur devait offrir, je dis bien une fois dans l'année, le sacrifice d'expiation pour le péché du peuple. Et il entrait dans le lieu saint, c'est-à-dire au-delà justement du voile, pour apporter, je dis bien une fois dans l'année, un sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Et ce que nous venons de lire dans Exode a une valeur prophétique. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce soir, que tous les sacrifices de l'Ancien Testament, tous les offrandes de l'Ancien Testament ont trouvé leur expression à travers une seule offrande, l'offrande de l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui seul, il est la somme de toutes les offrandes, de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est le résumé de toutes les offrandes de l'Ancien Testament. Il était lui-même souverain sacrificateur, mais également il était lui-même le sacrifice. Parce qu'au lieu d'apporter le sang d'un animal, il a apporté son propre sang. C'est pourquoi nous disons qu'il est le sacrificateur, mais également il est le sacrifice. Maintenant, Dieu avait fixé un jour, le grand jour du grand pardon. Donc de façon prophétique, que le jour de l'expiation correspondait à ce jour-là où l'agneau de Dieu allait être livré sur l'autel de
Golgotha.
Il y avait un autel qui était là en dehors des murailles de Jérusalem, et cet autel-là c'était Golgotha. Et sur cet autel, le sacrifice devait être présenté pour le pardon des péchés. Donc, j'aimerais vous dire ce soir que la crucifixion n'a pas commencé avec Jésus. Parce que les Romains avaient l'habitude de crucifier les gens. Donc, le jour de la crucifixion de Jésus n'était pas un jour où, de façon particulière, on a commencé à crucifier. Non. Les Romains avaient l'habitude de le faire, mais seulement le jour de la crucifixion de Jésus était un jour particulier dans le plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, le jour de la crucifixion de Jésus correspondait au grand jour d'expiation du péché. Et donc ce jour-là où le Fils de Dieu a été amené à cet hôtel appelé
Golgotha,
les hommes se sont dit certainement que c'est un brigand comme les autres brigands, c'est une crucifixion comme les autres crucifixions. Mais au grand étonnement du monde, c'est que la crucifixion de Christ avait une portée qu'il ne pouvait pas mesurer à cet instant-là. Parce que jamais, depuis qu'il crucifiait les gens, ils ont vécu ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que ce jour-là était un jour particulier. C'était le jour que Dieu avait arrêté dans son agenda divin pour le pardon des péchés du monde. Voilà pourquoi lors de la crucifixion de Jésus, un certain nombre d'événements vont se produire qui va nous amener à ce voile qui a été déchiré. Alors voilà que le Fils de Dieu va être pris par les hommes et on va l'amener à Golgotha. Mais entre temps, j'aimerais ouvrir une parenthèse, frères et sœurs, pour vous dire, nous cherchons tous la gloire avec Dieu, mais vous ne pouvez pas rentrer dans la gloire avec Dieu sans passer d'abord par
Gethsémane.
Parce que Jésus n'est pas rentré dans la gloire directement. Le moment du supplice du Fils de Dieu a commencé à
Gethsémane.
Donc ceux qui veulent avoir la gloire de Dieu sont passés par Gethsémane. C'est que vous faites la fausse route. Pour avoir la gloire de Dieu, il faut passer par
Gethsémane.
Parce que Gethsémane, c'est là où ton moi doit mourir, c'est là où ta volonté doit être soumise à celle de Dieu. C'est là qu'il a lutté, il a dit non pas ma volonté mais ta volonté. Et à Gethsémane, la souffrance a commencé. Parce que la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent, la Bible ajoute quand même que le serpent va lui mordre au talon. Combien même il va écraser la tête du serpent, mais il aura quand même un ton de souffrance. Et la souffrance de la postérité de la femme, cette souffrance va véritablement commencer à
Gethsémane.
Et c'est là, frères et sœurs, que le sang va commencer à couler. Puisque le rachat, le pardon du monde devait être réglé à cause du sang, le sang de l'agneau a commencé à couler à
Gethsémani.
Parce que l'expiation, le pardon des péchés devait se faire par le sang. Et le sang de l'agneau commence à Gethsémani au moment où il est en train de prier. Il prie et puis la Bible déclare que sa sueur se transforme en sang et le sang tombe à terre. Pour la première fois, le sang coule sur
Gethsémani.
Et après Gethsémani, sur le chemin qui va l'amener à Golgotha, le Seigneur va être arrêté. Et quand on va arrêter le Seigneur qui est l'agneau qui va expier le péché, on va dévêtir le Seigneur et on va le frapper au dos et le dos sera déchiré. Et quand Jésus sera frappé au dos, le sang va encore couler à ce moment-là. La deuxième fois, le sang coule parce que le Seigneur a été frappé. Non seulement le sang coule encore à ce moment-là, ils vont lui faire porter une couronne d'épines. Et pendant qu'on lui fait porter cette couronne d'épines, le sang coule encore. Et là, nous sommes dans le processus de l'expiation. Mais le monde ne comprend pas pourquoi le sang est en train de couler. Alors on va prendre ses mains, on va frapper la main droite ou gauche, le sang va couler. On va prendre notre main, on va frapper, le sang va couler. On va prendre ses pieds, on va jouer, le sang va couler. Le sang continue à couler. Et il va être suspendu entre le ciel et la terre. Et pendant qu'il est là entre le ciel et la terre, même après qu'il a expié, on va mettre la lance sur le côté. Le sang va
couler.
Parce que l'agneau devait faire l'expiation des péchés. Et il fallait que le sang de lui-même puisse pardonner le monde. Alors nous voulons la gloire. Préparez-vous à rentrer dans Gethsémane. Parce que de Gethsémane, vous allez arriver à Golgotha. Et on ne peut pas monter dans la gloire sans passer par Golgotha. Donc tous ceux qui cherchent la gloire, à passer par Gethsémane. Golgotha.
Golgotha.
Et à ce moment, vous allez rentrer dans la gloire. Et une gloire comme ça, là, vous ne payez pas le prix, elle vient pas de Dieu.
Amen.
Parce que le modèle qui est notre Seigneur est passé par là. La Bible déclare, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Vous ne pouvez pas régner, parler du règne, sont passés par la souffrance. Et la Bible ajoute que quiconque peut vivre pieusement en Christ sera persécuté.
Donc,
la vie chrétienne n'est pas une partie de plaisir où tout est facile. Il faut payer le prix comme le Fils de Dieu. Alors le Seigneur se retrouve sur la croix. J'ai dit qu'il y a un jour où ce voile a été déchiré et ce jour-là c'est le jour de l'expiation des péchés. Et là c'est le jour de la crucifixion de Jésus. Maintenant j'ai parlé que cet événement n'était pas comme les autres événements. Parce que lorsque vous lisez dans Matthieu 27, verset 45, Matthieu 27, verset 45. La Bible déclare ceci. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est au moment où il a été crucifié que maintenant des événements vont se produire. Les Romains avaient l'habitude de crucifier les gens. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, lorsqu'on l'a crucifié, la sixième heure, c'est-à-dire à midi, heure de chez nous bien sûr, à midi, jusqu'à 15h, qui est au courant à 9h, il y a eu
Pendant 3 heures, la terre était dans les ténèbres. Mais pourquoi pendant 3 heures, il y a eu les ténèbres sur la terre? Pourtant, je le répète, ils avaient l'habitude de crucifier. Et jamais il y avait des tels événements. Mais à cause de ce fils de Marie de Joseph, lorsque c'était son tour d'être crucifié, la Bible déclare qu'il va avoir les ténèbres. Et les ténèbres en question ne vont pas durer 2 heures, ne vont pas durer 5 heures, ça va durer exactement 3 heures. De la 6e heure à la 9e heure, l'événement qui est en train de se produire, le monde ne peut pas imaginer ce qui est en train de se passer dans le spirituel. Pendant 3 heures, il est en train d'expier le péché. Pendant 3 heures, il est en train de porter le péché de l'humanité, de tous les continents, de toutes les tribus, de toutes les nations, quelles que soient les époques. Pendant 3 heures, c'est là que ça se passait. Les ténèbres étaient là. Parce que là où il y a le péché, il n'y a pas la lumière. À ce moment-là, il devenait péché. Pendant 3 heures. 3 heures. Il a porté le péché. Pendant 3 heures, la prophétie d'Ésaïe 53 était en train de s'accomplir. Il était homme de douleur et habitué à la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il a été meurtri, il a été brisé à cause de péché. Pendant 3 heures, les ténèbres étaient là. Parce qu'à ce moment-là, il prenait ta place. Il prenait ma place. Il est devenu péché. Pendant 3 heures, l'expiation s'est faite en 3 heures. Le chiffre 3 est un chiffre divin. C'est le chiffre de Dieu
humain.
C'était le chiffre de Dieu. Alors pendant 3 heures, il verse le sang. Il devient péché. Maintenant, en dehors du fait que le Seigneur, par sa crucifixion, l'environnement naturel a été bouleversé. Maintenant, il va se produire un événement pendant cette période-là. De la 6e heure, on va arriver à la 9e heure. Et à la 9e heure, après qu'il ait porté le péché, à la 9e heure, il va se passer quelque chose. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse découvrir toujours en restant dans Matthieu
27.
La Bible déclare ceci. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani.
Papa, papa, ponanini obakinga.
C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Papa, papa, ponanini obakinga.
Oui, parce qu'à ce moment-là, l'homme Jésus était devenu un péché. Et comme Dieu ne cohabite pas avec le péché, pendant les 3 heures d'expiation, pendant les 3 heures d'expiation, il était devenu péché. Dieu s'est détourné. Parce que Dieu devait être juste dans son jugement. Alors quelques-uns de ceux qui étaient là, les ont entendu dire, il appelle
Élie.
Et aussitôt, l'un de courut prendre une éponge qu'il remplit de
vinaigre.
Et l'ont fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Et voici.
Là. Mais
c'est au deuxième qui. Et voici.
Pétala.
La voix du temple.
Voilà rivière qui a temple.
Se déchira en deux. Depuis le haut. Jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Les sépultures s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Frères et sœurs, voilà quelqu'un qui a été crucifié, mais dès l'instant où on l'a cloué, il y a des événements naturels qui se produisent. Les ténèbres s'installent pendant 3 heures. Et ensuite, à la 9e heure,
à 15 heures,
il a poussé un cri. Marie était enceinte du Sauveur. Elle portait dans ses entrailles le Sauveur. Mais le Sauveur lui portait dans ses entrailles le salut du monde. Et donc, il était enceinte de ce salut-là. Il était venu donner naissance à ce salut-là. Ce qui fait que toute sa vie est la raison d'être de cet homme. Il est venu sur la terre pour une seule chose, sauver son peuple de ses péchés. Donc lui, il était enceinte de quelque chose. Il y a quelque chose dont il était porteur qui devait atteindre son stade de maturité afin de vivre véritablement la délivrance. Voilà pourquoi tu le chemin de Gethsemane, le Seigneur est rentré dans les douleurs de l'enfantement. Parce qu'avant Gethsemane, il est dans le processus de développement. Mais après avoir passé 3 années de ministère, le Seigneur va se retrouver dans les douleurs de l'enfantement. Parce que lorsque une femme est enceinte, les douleurs qu'elle a au premier mois ce ne sont pas les douleurs qu'elle a vers la fin de sa grossesse. Les souffrances qu'elle peut avoir au début ne sont pas les mêmes souffrances qu'elle aura vers la fin. Parce que lorsqu'elle est enceinte, c'est qu'elle est à terme, les douleurs qu'elle aura à ce moment-là, ce sont les douleurs de l'enfantement. Les douleurs qui annoncent que ce qu'elle porte en elle, la semence qui est en elle, a atteint déjà sa maturité. L'enfant est déjà prêt à sortir. Donc les douleurs à ce moment-là, ce sont les douleurs qui annoncent un événement. Ce sont les douleurs qui disent que le temps est arrivé. Ce sont les douleurs qui disent que la délivrance est proche.
Amen.
Ce sont les douleurs qui annoncent quelque chose. Alors de Gethsemane, il commence les douleurs. Parce qu'il était enceinte de ce salut-là. Il était enceinte de la libération du monde. Alors il est là dans la souffrance. Mais une souffrance qui a bien but. Voilà pourquoi sur le chemin de Golgotha, les femmes de Jérusalem, elles ont vu Jésus. Elles ont commencé à pleurer. Oh Jésus, elles ont vu le jeune homme. Il avait que 33 ans. Il était jeune. Il n'avait rien fait. Elles ont pleuré. Elles se sont lamentées. Mais lorsque Jésus s'est retourné vers ces femmes, il leur a dit, ne pleurez pas pour moi. Parce qu'il savait qu'il était venu sur la terre pour accomplir le dessein. Il savait à cette heure-là que cette souffrance avait sa raison d'être. C'était une souffrance qui les a menés à la manifestation du salut de Dieu. Il savait. C'est pourquoi il ne pleurait pas pour moi. Je n'ai pas besoin de votre compassion. Je n'ai pas besoin de votre soutien. Moi, je sais. C'est pour cette heure, c'est pour cette journée que j'ai quitté le ciel. Que la parole s'est faite chair. C'est pour cette heure-là. Il le savait. Il le savait. C'était pour les tels moments, les telles circonstances qu'il était venu. Il a été incarné. Il le savait. Elles ont pleuré, elle a dit non.
Vous
pleurez pour vos propres péchés. Moi je sais pourquoi je suis venu.
Maintenant,
si cool.
À la 9e heure,
à 15 heures,
puisque je disais que la femme enceinte, elle a des douleurs. Les douleurs annoncent. Et comme par hasard, c'est à la 9e.
Et à 15 heures.
Le chiffre 9. Naturellement, il nous a été dit.
Et le bain de la biseau.
À des exceptions près, bien entendu, mais de façon naturelle, on a dit qu'une grossesse. Je suis en train de parler de ce qui est conventionnel. Je ne dis pas les cas exceptionnels.
C'est
un process normal. Elle doit faire 9 mois.
9 mois.
C'est 9 mois.
9 mois.
Et lorsque la femme entre dans le 9e mois, c'est là qu'elle a des douleurs qu'elle n'avait pas ressenties dans les autres mois. Parce que les douleurs du 9e mois, c'est les douleurs qui annoncent que c'est bientôt terminé. Alors, pour que l'enfant sorte, les femmes qui doivent accoucher, elles doivent pousser.
Et c'est là qu'on va pousser.
L'enfant qui sort, il va pousser.
Moi, je n'ai pas me signer pour pousser.
Parce que si vous ne poussez pas, il ne sortira pas.
Donc, il va pousser, moi, on va vous dire.
On va devoir vous faire une césarienne. Mais une grossesse normale,
c'est normal.
Pour que l'enfant sorte,
maladie.
Les femmes doivent pousser.
Seigneur, il va pousser.
Pousser les cris.
Va pousser.
Elles doivent pousser.
Va pousser.
Et lui, à la 9e heure.
Et la 9e heure.
L'heure était arrivée. Le moment de Dieu était arrivé. Alors il va pousser le cri. Parce que maintenant, c'est le cri de la délivrance. La science dit que lorsque le femme accouche, on appelle ça la délivrance. Mais c'est la même chose. Il fallait qu'il le pousse pour la délivrance.
Amen.
Il a fait le premier cri, il a poussé.
Il est à
généralement, l'enfant ne sort pas après le premier cri.
Il
faut pousser. Il faut pousser, 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 pousser. Il y a de tout dans les salles d'accouchement, ça crie, ça pleure, ça fait tout. Mais il faut pousser. Et après, il va encore pousser. Mais le deuxième cri, quand tu vas pousser le deuxième cri, c'est là que quelque chose va se passer. Non seulement il a poussé, il a crié, tout est accompli. C'est-à-dire maintenant le travail est terminé. Le travail est terminé. Le salut est accompli.
Amen.
Il a poussé le cri de victoire.
Gandhi.
Il dit, ça y est. La mission est terminée.
Oh, l'icambe kokisami.
Le salut est arrivé.
L'obi koye.
Et pour confirmer cela, au temple, le voile, rideau de séparation, le voile de séparation, qui mettait une barrière entre Dieu et le peuple, le voile, se déchire, se déchire. Ça veut dire que maintenant, une route nouvelle est ouverte, un chemin nouveau. Dieu nous accepte.
Dieu. Une nouvelle dispensation commence avec Dieu. Une nouvelle relation commence avec Dieu. Parce que derrière le voile de Gilet, il y a un nouveau peuple que Dieu s'est fait. Il y a un nouveau peuple là. Un peuple, le peuple de l'Alliance. Derrière le voile déchiré, il y avait un peuple. Dieu devait se perdre. Une nouvelle relation entre Dieu et les hommes. Nous étions tous des créatures. Maintenant, il déchire le voile. Il dit maintenant, vous pouvez être fils de Dieu. Le voile déchiré nous fait rentrer dans la famille de Dieu. Parce que derrière le voile d'une alliance nouvelle a été
signée.
Nous sommes dans une alliance nouvelle. Or l'alliance trace la destinée. À travers l'alliance, les destinées changent. Nous sommes sous le sang de l'agneau maintenant. À travers l'alliance, nous les positions changent. Cette nouvelle alliance fait de nous non plus des simples créatures, mais non des fils de Dieu. Elle nous donne une nouvelle position dans les lieux célestes. Parce que la Bible est là que nous sommes en Jésus-Christ, en Dieu et dans les lieux célestes. C'est la nouvelle alliance. Là où Dieu a juré par lui-même fidélité. Il a dit je ne t'abandonnerai point, je ne t'intéresserai point. Là où Dieu dit que je t'envoie mon esprit. Et ce même esprit rend témoignage à ton esprit. Le voile a été déchiré.
Et on a rigué par ce qui.
Le voile a été déchiré. Quand ne vous ramène plus dans la loi.
Il savait
que vous ne pouvez pas accomplir la loi. La loi n'a pas été donnée pour que vous puissiez la pratiquer. La loi n'a pas été donnée pour que vous soyez justifié par elle. C'est l'homme que Dieu avait choisi.
C'est
Dieu lui-même. Il savait qu'aucun être humain, aucun fils d'Adam, ne peut satisfaire les exigences de la loi. Mais la loi devait amener à la grâce. Parce que la grâce n'a de sens que lorsque la condamnation. On n'a jamais gracié des innocents. La grâce c'est pour les coupables.
Amen.
La grâce c'est pour les injustes. La loi devait t'amener à réaliser que tu es un pécheur. Tu es pas bon. Que ton cœur est mauvais. Il n'y a rien de bon en toi. Mais la grâce vient te dire je te sauve. Je te libère. Parce que je t'aime. J'ai pas besoin de tes efforts. La grâce te dit, je te demande une seule chose seulement. La foi. J'ai pas besoin de tes œuvres. J'ai besoin d'une seule chose. La foi. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. C'est la foi qui saisit la grâce de Dieu. La foi saisit la grâce de Dieu parce que la foi, elle entend la parole de Dieu. La Bible est avec la foi dans le ce qu'on entend. La parole de Dieu, c'est elle qui suscite la foi. C'est la parole que dit. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Alors tu entends la parole. Elle fait naître la foi en toi. Et tu saisis la grâce de Dieu.
devait terminer la grâce.
Et encore même sur le boulot.
C'est étonnant qu'aujourd'hui l'Église et les serviteurs de Dieu repartent sous la
gloire.
Nous sommes dans un sacerdoce plus excellent que celui de Lévi. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. De Jésus-Christ
lui-même.
Dans ce sacerdoce, il a dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Tous sacrificateurs pour Dieu. Il
n'y
a plus de protocole et d'intermédiaires. Il
n'y
a qu'un seul souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ.
Nazareth.
Plus de protocole. Mais nous nous approchons avec assurance du trône de Dieu. Il a ouvert déjà le chemin. Il dit le mur de séparation est tombé. La
9e
heure. C'était la fin de la loi. Pour commencer avec la grâce. La loi a commencé sur une montagne appelée Mont Sinaï. Et la loi se termine sur une autre montagne appelée
Golgotha.
C'était la fin. Jésus-Christ devait accomplir la loi. C'est pourquoi il est né sous la loi. C'est pourquoi il a pratiqué la loi. Parce qu'il savait qu'avec son sacrifice, le monde allait entrer dans autre chose. Il a accompli la loi. Mais il a accompli pour qui? Il a accompli pour toi. Il a accompli pour moi. Voilà pourquoi celui qui est en Christ, il n'a plus besoin de pratiquer la loi comme moi. Parce que Christ dans lequel tu es, il a déjà accompli la loi pour toi. Donc ceux qui sont en Christ sont bénéficiaires de l'œuvre de Christ. Christ a accompli la loi pour toi. Tu n'as plus besoin d'accomplir la loi et ses œuvres. Parce que maintenant tu es en Christ. Et en Christ, tu as accompli la loi de Dieu. La loi de l'amour. La loi de l'amour. Tu rends grâce à celui qui te fait grâce. La loi où tu es reconnaissant. Si tu prends conscience de la grâce de Dieu, tu ne manqueras pas de rendre grâce à Dieu. Car on ne rend grâce qu'à celui qui nous fait grâce. Et il t'a fait grâce parce qu'il était d'abord
Adonai.
C'est-à-dire qu'il était d'abord Seigneur. C'est à cause de sa seigneurie
qu'il
fait grâce. C'est le Seigneur qui a la capacité de faire grâce. C'est pourquoi il est d'abord Seigneur avant d'être souverain. C'est le Seigneur qui a le pouvoir absolu. Et parce qu'il a le pouvoir absolu, il peut faire grâce à qui il veut. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire ce jour-là à la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, verset 36.
Acte 2, 36.
Il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié, il est d'abord Seigneur avant d'être sauveur. Nous devons savoir avec certitude
Adonai.
Et c'est parce qu'il est Adonai qui te dit je te fais grâce. Parce que la grâce n'est la prérogative que d'un roi ou d'un président. Un condamné à mort
peut bénéficier de la grâce présidentielle. Un condamné à mort peut bénéficier de la grâce royale. Il n'y a qu'une autorité supérieure qui peut faire grâce. Parce que s'il n'était pas Seigneur, il ne pourrait pas accorder la grâce. Mais comme il est d'abord Adonai, Seigneur, voilà pourquoi il fait grâce. Il fait grâce. Il a dit, je vous aime de l'amour éternel. À 20h, c'était la fin. Et ce soir, c'est là que je vais m'arrêter parce que demain, on va voir maintenant que le voile a été déchiré. Qu'est-ce qui se passe? C'est à la même heure que le voile a été déchiré. C'est l'heure de la délivrance. 9 est une heure divine.
9 est un temps.
La Bible nous rapporte qu'à la 9e heure, Pierre et Jean allaient au temple.
Il est revenu à 15h, Pierre et Jean va quitter la tête.
Et c'est à la 9e heure que ce mendiant paralytique va être guéri. À la 9e heure, la Bible dit que les morts ressuscitèrent. C'est une heure divine. C'est une heure divine. Parce que le 9, je vous l'ai dit tout à l'heure, annonce la fin. Et le commencement de quelque chose. La fin. Mais ça annonce aussi le commencement. Alors ce soir, nous voulons être encore reconnaissants avec action de grâce.
Pour
dire merci à ce sauveur-là pour la 9e heure. Pour le cri de la 9e heure. Le cri de la 9e heure. Ce soir, on va se mettre debout. Et nous allons prier le Seigneur. Sauveur, merveilleux, je possède. Il sait ça, il est pour moi. De sa vie innocente, il sait.
Pour moi, méprisé, méprisé.
sauvé. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est Adonai. Il est Adonai. C'est lui qui fait grâce. Et la grâce qu'il nous a accordée, c'est elle qui nous libère. La grâce qu'il a apportée, c'est elle qui guérit. La grâce qu'il a apportée, c'est elle qui délivre. La grâce qu'il a apportée, c'est elle qui restaure. La grâce qu'il a apportée, c'est elle qui réconcilie. Elle nous redonne la paix. Elle nous redonne la joie. Elle restaure nos vies. Elle change nos conditions. Elle affecte notre destinée. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il t'a fait grâce à Golgotha. Sois reconnaissant ce soir. Sois reconnaissant ce soir. Marque dans les ordonnances de ton année. Souviens-toi de l'homme des aisés comme toi. Souviens-toi de l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Souviens-toi de l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était méprisé, abandonné des hommes. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. La vie, cependant, ce sont nos péchés. Il te donne la paix. Se trouve dans l'homme des aïeux comme toi. Il te donne la paix ce soir. Si tu as la foi ce soir, reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Si tu as la foi ce soir, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Parler ta foi, comme la foi de Bartimée avait parlé. Il a crié fils de David. Il a crié fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David. Fils de Dieu. Aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, ce soir et ton soir, car c'est aujourd'hui le jour de ton salut. Il a envoyé sa parole ce soir pour toi. Tu as un rendez-vous avec Dieu ce soir. Ce soir, c'est pour un homme. Ce soir, c'est pour une femme. C'est peut-être pas pour tout le monde. Mais il y a des personnes ce soir qui ont été destinées. Le Seigneur a envoyé cette parole. Et tout cet envoi, elle a brûlé dans ton cœur. Parce que tu as entendu la parole. Elle brûlait dans ton cœur.
les eaux sont agitées. Pour toi. Il a vu ta souffrance. Il a vu tes larmes. Il a entendu tes cris. Il a vu ta misère.
Ne pense plus à tes humiliations passées. Ne pense plus à ta maladie passée. Il dit voici. ta destinée. Ce message, le message de la 9e heure, c'était pour toi. Tu verras
maintenant.
Que te dire que c'est de toi, tu verras.
Il est toujours capable de remercie le Seigneur pour le salut. Remercie le Seigneur pour la neuvième
messe.
Bénis Dieu pour ta délivrance. Bénis Dieu pour ta libération. Bénis Dieu pour ta restauration. Alléluia.